Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h49, les grands débats dans quelques instants avec Arlette Chabot, Christine Bouillot, vos appels, 0826 300 300, ça sonne déjà au standard. En attendant, on va vous offrir un cadeau ce matin. Sud Radio et les Gîtes de France 64, Béarn, Pays Basque, vous offrent une semaine pour 4 personnes dans un gîte 3 épis. Vous allez pouvoir effectivement partir en vacances. On va vous donner un chiffre entre 0 et 20. Patrick, tiens, pendant que vous êtes là, 0 et 20.
17,
ouais, 10.
Ça vous convient le 17?
Oui, c'est pas mal.
Allez, c'est vendu.
C'est
pour
vous
17.
Qui choisissez. 17e appel au standard, 0826 300 300. Et tout de suite, les grands débats avec nos invités ce matin. En tout cas, vous qui nous appelez au même numéro, hein, 0826 300 300. Et c'est Geneviève qui est avec nous, qui nous appelle de Neuilly-Plaisance. Bonjour Geneviève.
Bonjour Geneviève.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, on parle beaucoup, là, cette semaine, d'abstention potentielle qui pourrait être record, d'élections, etc. Est-ce qu'il va y avoir une mobilisation? Qu'en pensez-vous?
Ce que j'en pense, eh bien, tout simplement parce que tout le monde s'insurge contre une soi-disant abstention.
Oui.
Mais je vous rappelle que plus du tiers de la France sera en vacances.
C'est vrai.
Parce que c'est le début des vacances de la zone B.
Ouais.
Les vacances commencent le samedi 9.
Ouais.
Vous croyez que beaucoup de gens vont prendre, vont avoir l'initiative d'aller faire une procuration?
Ouais,
non, la plupart des gens resteront chez eux.
Hmm, bah, alors, ça dépend, parce que s'ils ne partent pas en vacances, non plus, ils peuvent voter, quoi. Et puis, non, vous croyez pas?
Vous croyez que beaucoup de gens vont faire la démarche d'aller présenter, faire une...
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Alors, je vais vous dire, soit ce sont les parents qui gardent les enfants, soit ce sont les grands-parents.
Oui.
Et souvent, les gens n'habitent pas au même endroit, donc ils sont obligés de se déplacer. Et donc, je dis que on ne peut pas modifier la date là, des élections présidentielles, mais on pouvait fort bien modifier la date des vacances. Et on l'a déjà fait.
Ouais.
Parce que la zone B, c'est énorme.
Ouais.
C'est plus du tiers de la France.
Ouais. La zone B qui est en vacances à partir de ce week-end, alors.
À partir du 9.
À partir du 9. Oui, voilà, c'est
voilà.
Ça. Bon, alors, cela
vous
dit...
Vous croyez que les gens vont sacrifier un week-end pour aller voter?
Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez dans cette
voie? Moi, je sais ce que je vais faire.
Oui.
Parce que je dois partir garder mes petits-enfants.
Oui.
Donc, je vais faire une procuration avant.
Oui.
Mais
ça,
beaucoup de gens ne le font pas.
Oui.
Beaucoup de gens ne le font pas.
D'ailleurs, et c'est vrai, Geneviève, vous attirez l'attention sur quelque chose de particulièrement important. Hein, pour les personnes qui n'ont pas pris leur disposition encore. Et tout à l'heure, nous avions en ligne quelqu'un de l'association de Saint-Vincent-de-Paul qui lance en fait une opération pour aller aider les personnes âgées qui ne se déplacent pas. Il y avait 2 millions de personnes qui ne s'étaient pas déplacées au précédent scrutin, des gens âgés, parce que... pas toujours simple de pouvoir bouger, etc.
Ah, parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il ne pouvait pas.
Oui, parce qu'il ne pouvait pas. Et donc, il y a des démarches qui sont engagées pour ces procurations, pour qu'il y ait, par exemple, un policier, un agent de la police qui vienne, qui se déplace, faire la démarche, ou alors pour que des personnes, des voisins fassent cette démarche. Donc, c'est encore possible cette semaine, hein, ce vote par procuration. Merci, en tout cas... Geneviève, de votre appel. C'est vrai que Christine Bouillot, Arlette Chabot, ça risque de peser quand même beaucoup, hein, cette mobilisation ou pas, au contraire, cette abstention. On va commencer, tiens, par Christine, qu'on n'a pas encore entendu ce matin. Bonjour Christine.
Bonjour à tous. Bah, tenez, je vais vous raconter une petite histoire.
Oui.
J'ai rencontré des élus du Gers vendredi, et il y a un petit problème dans les communes rurales. Il y a une pénurie de secrétaires de mairie. Ce sont elles qui vont donner les papiers pour permettre les procurations.
Oui.
Sauf qu'il y a des mairies où il n'y a plus de secrétaires de mairie. Donc les maires s'arrachent les cheveux, les maires des petites communes, pour savoir comment dimanche 10 avril, ils vont s'organiser pour donner les documents nécessaires pour l'ouverture des bureaux de vote. Autre phénomène. Le nombre d'assesseurs, aujourd'hui, il y a une pénurie de personnes qui veulent bien s'impliquer pour tenir les bureaux de vote. Bon, dans les communes rurales, eh bien, les élus ont décidé, par exemple, de réduire le nombre de bureaux de vote parce que c'est plus simple. Alors, pas réduire le nombre de bureaux de vote, parce que c'est pas possible, mais le nombre de personnes qui sont susceptibles de tenir le bureau.
Ah bah, de toute manière, il faut un minimum, quand même.
Et donc, il n'y en aura plus que deux.
Il n'y en aura plus que deux.
Pour tenir. Ouais, voilà, ouais, par exemple, dans les communes rurales. Donc, on voit bien qu'au-delà de l'abstention, il y a tout un appareil qui permettait, une force citoyenne qui permet de tenir une échéance électorale majeure, qui aujourd'hui, par faute, je ne sais pas, de petites mains, d'investissement, de se rendre compte de ce que ça représente pour la démocratie, eh bien, ne sont plus là. Donc, les élus devront se débrouiller partout pour faire tenir les bureaux de vote et permettre justement les procurations, en sachant aussi, c'est que dans les grandes villes, par exemple, on a fait le sujet à Marseille, dans les commissariats, par exemple, ça ne suit pas, parce qu'il n'y a pas assez de monde pour
finir de
donner les papiers.
La personne de l'association Saint-Vincent-de-Paul disait il faut les policiers peuvent se déplacer encore chez vous pour effectuer cette démarche. Je disais déjà, ils ont du mal quand même à remplir leur mission par ailleurs dans certains quartiers. Alors, les mobiliser beaucoup pour ça, je pense qu'il faut s'organiser autrement quand on le peut, évidemment, pour cette procuration. Arlette Chabot, vous me parliez hors micro tout à l'heure, vous me disiez c'est quand même dingue, on est en 2022 et on aurait pu mettre en place aussi peut-être du vote par Internet.
Oui, du vote électronique au fond, par Internet. On se dit qu'on peut acheter tout ce qu'on veut, on peut faire des transactions via Internet et on ne pourrait pas voter. Alors on dit attention, piratage, attention. Bon, mais en fait, il y a un moment où il faut quand même tout mettre sur la table à nouveau, c'est-à-dire le vote par correspondance. Ah oui, mais attention aux États-Unis, regardez, ça ne marche pas, c'est contesté. Alors le vote électronique, ah oui, mais attention. Bon. Donc il faut quand même trouver des remèdes, parce que c'est vrai que le passage dans un bureau de vote, l'isoloir, c'était mythique pour des générations, c'était un moment important, la citoyenneté, ça passe par le bureau de vote, si j'ose dire, c'était une illustration, une démarche importante dans la vie des citoyens. C'est fini. Donc pour les jeunes, tout ça n'a pas de sens. C'est pas forcément qu'ils se désintéressent du vote, de l'élection. Ils sont pas forcément les plus passionnés, mais ils seraient sans doute encore plus intéressés s'ils pouvaient se prononcer et s'exprimer autrement, d'un moyen beaucoup plus simple que d'aller faire la queue dans un bureau de vote pendant trois quarts d'heure, avec des difficultés d'organisation pour les communes.
Ouais. Oui. Merci. Allez, on va continuer d'en parler. Si vous voulez réagir autour de ça, justement, autour de ce sujet de l'abstention ou du vote par procuration, si vous avez des exemples, des histoires, vous nous appelez 0826-300-300. J'aimerais bien vous entendre, notamment sur ces problèmes d'assesseurs, comme le disait tout à l'heure Christine Bouillot. Autre sujet dont on peut parler ce matin, vous savez qu'il y a des tensions sur l'électricité, parce que, grosso modo, on a dans notre parc nucléaire une centrale sur deux, aujourd'hui, qui est en entretien, en maintenance. Résultat, RTE, alors qu'il y a, il y a une vague de froid, demande aux particuliers et aux entreprises aussi de faire un petit effort ce lundi. Alors, est-ce que vous êtes, vous, disposé à réduire votre utilisation de chauffage, d'éclairage, d'appareils ménagers, ou alors vous ne changez rien? Vous dites à 80% sur la petite consultation que l'on fait là, que vous ne changerez rien pour l'instant. En tout cas, ne débranchez pas Sud Radio. Et puis, de toute manière, il y a d'autres moyens, il n'y a pas forcément que l'électricité, même si ça consomme un peu, mais enfin, ça va, c'est pas énorme. J'aimerais bien vous entendre à ce sujet, et on peut parler aussi du gel. Bien sûr, et je ne sais pas si vous avez entendu ce témoignage d'un arboriculteur tout à l'heure dans le Tarn-et-Garonne. Il a perdu énormément encore avec ce froid et il voudrait pouvoir utiliser en fait l'eau, cette technique qui permet de protéger un petit peu les bourgeons et éviter évidemment ces pertes considérables. Et puis dans un instant, Éric Revel, cirque et souffrance animale.
Et dans un instant, la suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
La suite des grands débats, on en profite pour vous rappeler qu'à partir de 9h30, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au 0826-300-300, puisqu'on parlera de la sécurité, le véritable état des lieux de l'insécurité, un tabou présidentiel. On en parlera avec Xavier Roffer, qui est criminologue et directeur des études du département de recherche sur les menaces criminelles.
Ouais.
Et
puis, tous les sujets, tous les matins de cette semaine, de 9h30 à 10h, les grands sujets, évidemment, de cette campagne, qui ont été évoqués ou pas évoqués aussi, bien sûr, eh bien, nous, on les développe et on les aborde et avec des meilleurs spécialistes et vous pouvez évidemment réagir. Autre rendez-vous.
Autre rendez-vous avec Valérie Expert qui reçoit le président de l'ARCOM. Vous savez, c'est l'ancien CSA, Roch-Olivier Maistre. Il évoquera le rôle et la mission de cette nouvelle autorité de régulation en cette période présidentielle.
Oui, interview exceptionnelle, sans tabou, tout à l'heure de 10h à 10h30, 11h moins le quart avant les grands débats de Valérie.
Et tout de suite, Revel en campagne.
Sud Radio présidentielle 2022.
Et il est là, Éric Revel. Bonjour Éric.
Bonjour.
Bonjour Cécile, bonjour Arlette.
Alors,
bonjour
Éric.
Patrick, bonjour à tout le monde.
Oui, absolument. Vous voulez parler de la condition animale, la souffrance des animaux qui est devenue un vrai sujet de campagne présidentielle.
Oui, alors effet de mode ou véritable prise de conscience, oui, la souffrance animale, vrai sujet de société, est un thème abordé d'ailleurs dans les programmes de certains candidats. Bon, il y a peut-être une opportunité politique. Il faut dire que vous vous souvenez, le parti animaliste avait créé la surprise aux élections européennes de 2019 en frôlant les 2,5% de voix. Alors, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'était un parti qui était créé depuis 2016. Donc oui, la condition animale préoccupe une partie non négligeable des Français. Même si parfois, il faut quand même le reconnaître, nous sommes assez nombreux à passer près d'un SDF sans un regard. Le problème avec ce thème de la protection de l'animal, c'est qu'on y fait un peu et on y met un peu tout et n'importe quoi. On retrouve la question de la chasse, on retrouve la question des élevages intensifs, on retrouve la question des animaux sauvages des cirques, mais rarement d'ailleurs, parce que le sujet est politique et demande du courage, rarement quand on parle de conditions animales, on parle d'abattage rituel au nom d'une religion.
Oui, c'est ça. Les animaux sauvages qui disparaissent justement des cirques, le cirque qui se meurt au profit, par exemple, de certains jeux en ligne, des jeux vidéo, etc.
Bah oui.
Ce n'est plus le même imaginaire, quoi.
Bah non. Ça fait un peu ringard de parler du cirque, de parler des animaux du cirque en particulier. Les cirques, alors ces noms vont peut-être dire quelque chose aux plus âgés d'entre nous. Grus, Pinder, Zavata, ça nous a fait rêver. C'était une époque où la condition animale n'était pas justement un sujet de société. Alors aujourd'hui, la loi interdit de montrer des animaux sauvages dans les cirques, mais que sont devenus ces bêtes et ces dompteurs? Hier, Patrick, moi j'ai été voir Frédéric Edelstein, qui est ce grand dompteur français avec ses 10 lionnes blanches. Ces lionnes et le dompteur, ils sont au chômage. Le cirque Pinder se meurt, il est à l'arrêt, pas très loin de Paris. Comme chaque jour, d'ailleurs vers 17h30, j'en étais témoin, les lions et les lionnes rugissent dans leur enclos, comme à chaque fois quand ils entraient sur la piste. Mais là, il n'y a plus de piste, il n'y a plus rien, les animaux sont dans des boxes. Ces félins ne bougent plus de leur enclos, près de Melun, je vous le disais. A-t-on pensé aussi à la souffrance animale, maintenant, de ces animaux qui ne font plus rien dans le cirque, et qui étaient nés en captivité? A-t-on pensé aussi à la souffrance des gens du cirque, qui ont perdu, souvent, leur raison de vivre?
Oui, mais on a le sentiment alors que les souffrances animales ne sont pas traitées sur un même pied d'égalité, ce que vous voulez dire. Il y a là une forme de politiquement correct, alors, c'est ce que...
Je vais vous donner quelques exemples. Bon, très bien, on parle de la souffrance des animaux sauvages dans les eaux, j'ai bien compris. Mais oui, il y a une façon politiquement correcte de traiter de la condition animale et de la souffrance. Pourquoi, par exemple, on ne parle pas de la souffrance animale d'un chien en appartement qui attend toute la journée le retour de son maître, pensez qu'il est super heureux, au nom de la défense du loup, par exemple, je vais me faire un peu provocateur, des gens qui défendent le loup. Est-ce qu'on parle de la souffrance du mouton d'alpage qui est égorgé par ce loup? Pas du tout. La corrida demeure autorisée, au nom de la tradition et de la culture, mais le cirque aussi appartient à notre patrimoine culturel. Pourquoi s'être finalement acharné sur lui? Nous avons, je vais employer un mot fort, collectivement déconstruit une partie de ce patrimoine culturel. Frédéric Edelstein, dont je vous parlais, et ses lionnes blanches rêvent d'un grand parc d'attractions au portes de Paris. Il parle d'un Pinderland pour raconter l'histoire du cirque français et du cirque Pinder. L'époque où Luis Mariano, j'ai vu sa caravane, faisait sa tournée avec le cirque. L'époque où l'acteur Jean Richard dépensait sans compter pour le cirque. L'époque où Roger Lanzac, ça vous dit peut-être encore quelque chose, animait la piste aux étoiles. Cette culture populaire a été rayée de la carte de notre patrimoine collectif. Écoutez la petite musique au cœur de nos enfances révolues, la petite musique du cirque qui passait par nos villes et par nos villages.
Juste avant la petite pause tout à l'heure, je suis sûr que John va nous retrouver l'indicatif de la piste aux étoiles. C'est vrai que ça fait un peu débat parce qu'il y a eu, vous avez raison de souligner effectivement, c'est tout un passé qui est en train de mourir et les animaux effectivement c'était souvent un premier contact. Après, il y avait aussi parfois de la maltraitance. On voyait quand même des animaux dans des
conditions
enfermées
dans
pas,
des cases hein, toute la journée.
Oui, qui n'étaient pas terribles non plus, quoi, déplorer. Quoi.
Non, mais je ne conteste pas. Ouais. Ce qui est intéressant de savoir quand même, c'est que quand vous discutez avec des professionnels du cirque, c'est que depuis qu'ils n'ont plus le droit de montrer les animaux sauvages, bah, les entrées s'effondrent. Ça prouve quand même qu'il y avait un intérêt du public, et ça prouve surtout que le cirque, qu'avec des attractions, acrobaties, ça ne marche plus, c'est plus rentable, ça ne fonctionne plus. Aller du côté de Melun rencontrer Frédéric Edelstein, vous allez voir, tout ce matériel, ces chapiteaux qui sont en train de pourrir sur place, il y a un côté très attachant au cirque, je trouve.
Ouais, c'est vrai qu'il y avait les enfants, c'était le seul moyen clowns, parfois de voir des animaux sauvages.
Alors, ça a été dépassé, ok, c'est un peu ringard, c'est bon pour les boomers, vous voyez. Oui. Mais oui, est-ce qu'un chien qui reste toute la journée en appartement, il n'y a pas une souffrance animale, vous voyez Bon, on peut se poser des tas de questions, une tourterelle dans une cage, bon, voilà.
Ouais. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, Arlette Chabot, Christine Bouillot.
Elle se souvient du cirque, Arlette,
non. Moi j'ai vu des petits cirques avec franchement des animaux sauvages, c'était une horreur parce que ils étaient dans des cages tout le temps. On voyait bien que c'est des cirques qui ont du mal à vivre. Ils ont du mérite d'exister, du mal à vivre, et des animaux qui visiblement n'étaient pas assez bien traités. Donc ça, c'est une évidence. C'est vrai qu'il y a des cirques, je pense au Cirque du Soleil, qui a fait évidemment toute sa grandeur et son développement avec justement que sans animaux et avec
des
artistes. Et c'est formidable. Donc, tout ça est à prendre. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que dans ce cas avec des animaux sauvages, il y a des propositions qui devaient être faites aux responsables de cirque pour que ces animaux soient accueillis dans des parcs zoologiques, notamment. Donc, je ne sais pas si dans le cas de ces lions blancs dont vous parliez, effectivement, il y a des propositions qui ont été faites pour pas que...
Frédéric Edelstein les conserve chez lui, ils ont un domaine...
En espérant peut-être reprendre la route, c'est ça, non?
Alors, moi je fais de l'exercice même tous les jours pour pouvoir rentrer dans mon costume le jour où... Vous voyez, la force du cirque, de ces gens de cirque, non seulement ils étaient itinérants et là maintenant ils sont sédentaires, même s'ils sont encore dans des caravanes, je l'ai vu hier... Mais voilà, il a encore cet esprit, il a encore cette envie de dire, bon, il faut que je m'entretienne physiquement, parce qu'il faut que je puisse rentrer dans mon costume le jour, et puis il leur parle en anglais à ces lions, j'ai vu. Enfin, il y a un attachement fort, ces lions qui venaient d'Afrique du Sud, qui étaient liés en captivité, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui de ces animaux-là? Qu'on interdise pour la suite?
Oui, mais dans des zoos, parce qu'on dit des parcs animaliers, aujourd'hui, pour leur offrir... Il y en a aussi, je veux dire, les zoos aussi ont changé. Les parcs animaliers, c'est pas un zoo, on voit bien qu'il y a aussi un souci de créer des endroits où les animaux sauvages ont de l'espace et sont beaucoup plus à l'aise qu'autrefois, on les foutait dans des petits trucs très très étroits.
Mais ce qui est marrant, c'est que pour notre confort personnel, par exemple, vous voyez, on va se réjouir, on va s'esbaudir de voir des pandas naître en captivité, vous voyez, on va se dire...
Ah oui, mais on les sauve comme ça aussi.
Non, mais très bien, mais enfin, ils sont dans des enclos, je veux dire. Et nous, on est là, occidentaux, confortablement assis, on se dit, oh, qu'est-ce qu'il est mignon, le panda, mais est-ce qu'on s'imagine...
Faux, Eric, parce que l'idée est de les remettre en liberté.
Oui, le zoo de Beauval fait beaucoup ça, la réintroduction, justement.
Qu'est-ce qui se passe en Chine, on les reproduit parce qu'ils sont en captivité, parce qu'autrement, ils ne se reproduisent pas ou mal. Et ensuite, après quelques années, c'est le but des Chinois, on les remet en liberté. Et c'est comme ça qu'on sauve aussi des espèces. Donc tout ça est extrêmement compliqué.
Enfin, je voudrais voir les pandas relâchés en liberté.
Ils avaient remis des gazelles dans la corne d'Afrique, qui n'existaient plus sur le terrain. Dans la vraie vie.
C'est un sujet.
Christine Bouillot, un mot, Christine, oui.
Il suffit de voir le renouveau du cirque, tout simplement. C'est un transfert. Je veux dire, aujourd'hui, souvenez-vous, les cirques d'antan, c'était des humains qu'on présentait, qui avaient effectivement des énormités physiques.
Alors ça, c'était
des animaux. Mais ça existait aussi, ça a été terminé, mais ça existait. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le public. Alors effectivement, la population, le grand public aime venir voir les animaux, l'animalerie, ça fait partie.
L'animalerie, il y a beaucoup d'endroits où c'est fermé. C'est fermé l'animalerie aussi. En fait, il y a de plus en plus.
Tout est en train de fermer. Les Maryland, à Dauphin, tout ça est en train de fermer.
Le plus grand festival de cirque en France, c'est à Auch, s'appelle Circa. Je vous invite à y aller une fois si vous avez le temps de venir voir ce qui se passe. C'est le renouveau du cirque. Il n'y a plus un animal. Tout est basé autour de l'être humain. Et de l'homme, de la femme, enfin voilà, c'est une tendance lourde, c'est vrai.
Et
que
pourtant,
je rejoins Eric, parfois je vois des propriétaires d'animaux domestiques avec des chiens enfermés toute la la journée dans un appartement, des gros chiens. Je ne sais pas si effectivement, là aussi, il n'y a pas parfois une espèce d'antagonisme entre vouloir la liberté pour tous les animaux et avoir autant d'animaux domestiques. Et parfois, ils ne sont pas forcément
vous connaissez,
bien
traités, vous
quand
savez,
on voit quand on les abandonne aussi. Ouais. Hein,
vous savez qu'il y a une disparition de certaines espèces en fait, chez les oiseaux. Hein, et vous connaissez le premier prédateur. On dit en fait, c'est parce qu'il n'y a plus les haies, etc. C'est
les
vrai,
chats.
C'est vrai, mais ce sont les chats. Ouais, les chats
sauvages, les chats qui vivent dans la rue.
Sûr, bien sûr, bien sûr.
Pas que les chats sauvages.
Non, non, les autres aussi. Bien sûr, domestiques. Allez, dans un instant, si vous voulez réagir sur les animaux, justement, sur la maltraitance animale, etc.
J'étais pas loin.
Voilà, et donc le Roger Lanzac du jour, c'est Éric Revel.
Voilà, oui,
si vous voulez réagir sur ce sujet, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Et puis l'autre sujet qui fait quand même beaucoup causer sur les réseaux sociaux qu'on a mis ce matin, parce que évidemment, vous savez, il y a des tensions sur l'électricité. RTE qui demande aux particuliers de faire un effort ce lundi. Est-ce que vous êtes disposé à réduire votre utilisation, chauffage et éclairage, appareil ménager, vous n'allez rien changer. Il y a beaucoup de réactions, comme par exemple Jean qui dit l'arrêt de certains réacteurs pour entretien aurait pu être programmé avant la période hivernale où on a le plus besoin de production. Il y en a d'autres qui disent, comme Valou, hein, il y a des années que je fais attention, je me lave les mains, j'aère ma maison, je ne laisse pas les appareils sous tension, il fait 18 degrés chez moi. Et ces gens qui nous expliquent que faire, que font-ils eux-mêmes ? Interrogation de Valou, il y en a beaucoup comme ça.
Hugues nous dit, pourquoi toujours au même de faire des efforts ? Va-t-on faire un effort dans les ministères, à l'Assemblée nationale et à l'Élysée ?
Voilà,
c'est une grande question, on les appellera. Ça.
C'est vrai, allez, vous pouvez nous appeler et vous réagissez dans un instant. 0826 300 300.
A tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h21, la suite des grands débats ce matin. 0826 300 300, on vous attend au standard. On parlait des animaux ou de la maltraitance animale. Il y a forcément des sujets qui vous intéressent. Est-ce que vous voulez parler de votre candidat ? Est-ce que vous parlez de l'abstention ? On vous attend tout de suite au standard avec Éric Revel et avec Arlette Chabot ce matin.
Oui, et puis ces questions évidemment autour de la vague de froid. Et alors derrière ça, il y a les questions autour de l'écologie. Et c'est assez étonnant parce que dans cette campagne, alors que l'on aurait pu s'attendre à, notamment parce qu'il y a eu la crise sanitaire, il y aurait pu avoir des interrogations sur la façon dont on vit d'affronter l'avenir également. Et l'écologie, Arlette Chabot, on a du mal. Finalement, ça n'a pas beaucoup percé, par exemple, pour Yannick Jadot. Est-ce que c'est lié peut-être à Yannick Jadot lui-même ou c'est la thématique parce qu'il y a le pouvoir d'achat qui est là et puis
d'autres questions. Mais tout est lié en fait, Patrick. Ouais. Mais alors, il y a une difficulté majeure, c'est l'élection présidentielle pour les Verts. On n'imagine jamais un Vert à l'Élysée. Le record, on le sait, c'est Noël Mamère, un peu plus de 5% en 2002. C'est le record que pourrait battre Yannick Jadot, qu'il espère encore battre. Il y en a un qui s'est emparé totalement de la thématique, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Oui.
Aujourd'hui, il se présente non seulement comme le candidat anti-riche, pour faire simple et court, mais aussi comme le candidat de la transition écologique, avec un plan, on le sait, évidemment, une planification, mot repris ou formule reprise aussi par Emmanuel Macron, mais le débat écolo, il est sur l'énergie. Aujourd'hui, c'est le nucléaire, c'est comment produire de l'électricité, c'est l'énergie renouvelable. Donc, en fait, le débat, il est quand même sous cette forme très présente dans la campagne.
Là où c'est étonnant, c'est que, évidemment, les candidats qui défendaient naturellement le plus, en tout cas dans un premier temps, ce sujet, comme Yannick Jadot ou Anne Hidalgo, n'arrivent pas à véritablement décoller, hein, Éric Revel.
Ah oui, ça, ils décollent pas du tout. Ils sont toujours en bout de piste, ils savent même pas qu'ils ont pris de l'altitude, c'est que pour l'instant ils sont en rase-motte et ils vont sans doute terminer en rase-motte.
Attention, parce que parfois
j'ai entendu Frédéric Dabi. Bon, on va voir. Mais je suis d'accord avec Arlette, c'est-à-dire que tous les candidats proposent plus ou moins aussi de traiter la question de l'écologie, donc c'est un peu partout. Et puis je rajoute quand même quelque chose, c'est que les Verts français par rapport aux Grünen allemands ont une grande tradition, si vous voulez, c'est qu'ils se tirent des balles en caoutchouc parce que écologique, des balles en caoutchouc dans les pieds et dans les genoux, parce que ils arrivent à prendre des grandes villes, des mairies de grandes villes, Grenoble, Lyon, enfin Grenoble c'était avant, Lyon, Bordeaux. Ouais. Bon, et qu'est-ce qu'on retient d'eux ? On ne retient pas qu'ils vont protéger l'environnement, on retient que le maire de Lyon, je crois, expliquait que le Tour de France, c'était non écologique. Hein, très bien, vous voyez, enfin, je veux dire, que celui de Bordeaux, me semble-t-il, voulait retirer des sapins de Noël, parce que c'est bon, etc., etc. Donc déjà, les Français ont l'image, à tort ou à raison, d'écologie punitive.
Ouais.
Mais si vous rajoutez ces espèces de maladresses foutraques de maires de grandes communes qui ont été élus et qui sont verts, bah, franchement, oui, vous pouvez être écolo, mais vouloir voter pour d'autres candidats qui vous paraissent plus raisonnables sur le sujet, voilà, et plus constructifs.
Ou alors qui apparaissent plus près de la nature. Jean Lassalle, c'est pour ça qu'il a une cote de sympathie aussi, peut-être, Jean Lassalle.
Et, oui, il y a l'image de la ruralité, voilà, oui, et l'image de la ruralité commune.
Légitime.
Bon, voilà. Non, mais,
c'est une image.
Oui, mais c'est une image, et en même temps, comme il va beaucoup sur le terrain, on l'a vu, il réussit à attirer, en fait, une certaine sympathie, quoi.
Oui, vous avez aussi Fabien Roussel avec la bonne bouffe.
C'est vrai,
moyen de se différencier aussi des écologistes, parce que un, il défend le nucléaire, et deux, il dit bah, ce qu'on sait sur toujours la bonne viande, le bon fromage et voilà, la
comme
gastronomie
quoi,
française.
Un bon mot ou en fait une idée, que ce soit valable ou pas, un argument, ça peut marcher, quoi.
Bah, ça fait-il, c'est-à-dire qu'il y a un écho chez, dans la tête des Français.
Oui,
bah, si il avait raison, Éric, de dire quand la maire de Strasbourg dit pas de foie gras.
Ou pas de foie gras, oui, j'avais oublié celle-là.
On peut dire pas de foie gras, bah, j'aime le foie gras ou j'aime pas, ou elle a raison, mais enfin bon, ça passe mal, quoi. Ouais. Ça passe
bien. Et puis, vous parliez de Fabien Roussel, mais effectivement, son thème de la France des jours heureux, vous voyez, ça claque, c'est un slogan publicitaire vachement bien vu.
Ouais.
Non seulement parce qu'on n'attend pas un tel slogan dans la bouche du représentant du Parti communiste français, la France des jours heureux, mais aussi parce que ça renvoie tout à chacun à un contexte qui est quand même très compliqué en ce moment, qui est celui post-crise sanitaire, espérons-le, et encore guerre en Ukraine. Donc on est dans un espèce de contexte anxiogène, et on entend un type, alors à tort ou à raison, il sera évidemment pas élu, et il va pas changer la face du monde, ni la face de la France, mais on entend un type qui nous dit, moi je vais vous parler de la France des jours heureux. Vous écoutez, vous dites, ah mais oui, ça fait du bien quelqu'un qui me parle d'un truc positif.
Positif,
les jours heureux, vous voyez, même si personne n'est dupe, parce qu'on peut rappeler aussi à Fabien Roussel, il n'est pas né à l'esprit, son Staline dans une émission, il ne sait pas s'il doit le mettre en camarade ou pas camarade, etc. Mais il a représenté une espèce de bulle d'oxygène dans cette campagne, finalement.
Allez, 0826-300-300.
Oui, on va revenir sur l'électricité et la demande d'RTE de peut-être gérer au mieux l'électricité aujourd'hui. Mais Jean-Pierre est avec nous de Villefranche-sur-Saône. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Pierre.
Oui bonjour. Bonjour particulièrement à Cécile, dont j'apprécie la voix. Bonjour,
la voix qui vous réchauffe, donc il n'y a plus besoin de couper le chauffage, quoi.
Oui, et puis quand elle rit, alors là, c'est vraiment...
Est-ce que vous pourrez rire
Faites-moi rire, Jean-Pierre. Allez-y.
Ah oui.
Allez, blague.
Ça marche toujours. Allez, ça marche.
depuis que je sais que l'on déboutonne petit à petit, alors là...
C'est une blague, bien sûr.
Je n'ai rien compris à cette histoire de boutonnement.
Nous non plus.
Alors, sur l'énergie.
Jean-Pierre.
Alors, soyons sérieux. Écoutez, l'autre jour, j'habite à côté du Mont-Saint-Michel, je rectifie, mais bon, c'est pas grave. J'étais effaré d'entendre que 84% des auditeurs ne voulaient pas faire un effort sur le pétrole et le gaz pour essayer de donner moins d'argent à M. Poutine pour qu'il tue un peu moins d'Ukrainiens. Alors, doit-on s'étonner aujourd'hui que 80% des auditeurs ne veulent pas non plus faire un effort pour que les centrales ne saturent pas? Ça, il y a une corrélation.
Mais alors, ce qu'il y a, certains disent quand même, gouverner, c'est aussi anticiper, prévoir, quoi. Et qu'on n'a pas, prévu.
Bien sûr, c'est toujours la faute des autres. Il y en a aussi, je viens d'entendre que certains disent qu'il faut que l'Élysée et les autres fassent des efforts. Bien sûr. Si vous attendez que les gros fassent des efforts, les gars, vous mettez le doigt bien profond, c'est pas possible.
Non.
Colibri, vous connaissez l'histoire du colibri. Commençons déjà chez nous, et bon, les autres, peut-être que leur conscience leur dictera quelque chose. Écoutez, moi je suis effaré par ce manque de conscience citoyenne. Et je dirais même, est-ce que ça va voter, ça? C'est pas possible, quoi. Alors, droit de vote à ces gens qui n'ont aucune conscience. Bon, allez, une petite phrase pour résumer la situation, puisque vous êtes les médias. Vous avez connu Agui Guimouna, quelqu'un a connu Arlette Chabot peut-être, Agui Guimouna.
C'était quoi? C'était celui qui était candidat éternellement, c'est ça?
Non, c'était un type, il ressemblait un peu à l'abbé Pierre, mais on l'a dit, qui grimpait sur les griffes de la grille de la bourse dans les années 30, pour dire,
oula,
pour dire
les années 30.
Démolissez-moi tout ça, il n'avait
sympa
pas de...
Sympa pour les années 30, merci beaucoup.
Non, pardon.
J'ai connu, je vous remercie.
Moi j'ai connu son père.
Il voulait juste dire que vous étiez très cultivé, Arlette, c'est pour ça.
Oui, absolument.
Il est parfait,
rien à voir avec l'âge.
Surtout, il faisait des manifs avec son vélo. Bon, bref. Alors, il disait, écoutez bien, hein, parce que ça vous concerne aussi. Sont-ce les masses qui rendent les masses médias médiocres ou sont-ce les masses médias qui rendent les masses médiocres? Voilà. À méditer.
À méditer. Merci.
Merci
à vous, Jean-Pierre. Comme Jean-Pierre, si vous voulez réagir sur l'actualité, vous nous appelez 0826 300 300. Dans un instant, vous pourrez réagir sur ce sujet.
Sur la sécurité.
On en a un peu moins parlé dans cette campagne électorale. Pourquoi est-ce que ça veut dire que tout va mieux, tout va bien,
ou pas,
ou alors il y a des choses qu'on passe un petit peu et qu'on met sous le tapis. Dans un instant, notre invité,
Xavier Hoffer, qui est criminologue et directeur des études du département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines à l'université Paris 2, sera avec nous. Et bien sûr, on vous attend au standard, hein, pour donner votre avis. 0826 300 300. À tout de suite.